Est-ce que vous savez que cet Amen qui a terminé ce chant est important? Amen, ça veut dire en vérité, en vérité. Ce qui veut dire ça, il y a une confirmation, il y a quelque chose de... On ne peut pas revenir en arrière. C'est quelque chose d'affirmatif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas revenir en arrière, comme je disais, parce que tout est dans cet Amen. Et avec Dieu, c'est comme ça. Dieu a accompli des choses merveilleuses dans notre vie, mais il y a quand même une question, c'est que s'il a accompli des choses merveilleuses, il veut aussi que nous puissions les mettre en pratique. Et là, ça nous engage, chacun, chacune. Alors la question est importante, et ce que je vous propose ce matin à travers la prédication, c'est un passage qui est dans les Philippiens, au chapitre 2 et le verset 12. Voilà. Je vais vous le lire moi sur la Bible. Ainsi, mes bien-aimés, vous m'entendez bien? Ah bon, d'accord. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. J'ai coupé ce verset 12, verset 16, mais la suite est intéressante à lire. Ça, je vous propose de le faire lorsque vous serez rentré chez vous. Alors, on peut dire que ici, dans ce passage de Paul aux Philippiens, il y a une exhortation. Une exhortation à la sanctification. Et pourquoi la sanctification? Parce que c'est important, très important. Particulièrement peut-être en ce début d'année, on est en janvier encore, on peut dire que l'année 2016 vient de passer. On peut peut-être penser que l'année précédente a été une année marquée par des combats, des luttes, mais aussi par des victoires. Et ces victoires ont pu peut-être procurer des grandes joies. Il y a aussi peut-être des progrès spirituels. Alors, je ne sais pas, chacun pourrait l'exprimer. On pourrait dire, toi. Mais cette nouvelle année, 2017, qui est devant nous, va permettre sûrement de faire un nouveau pas dans la foi. Et c'est ça qui est important, de marcher dans la foi. Alors, en lisant ces quelques versets de Philippiens, on s'aperçoit qu'un des premiers aspects qui est important, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. C'est Samuel qui pouvait dire de la part de Dieu ceci. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Je répète parce que c'est important. On a besoin de comprendre ça. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, pour moi, j'ai besoin de me le répéter. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'était du temps des Juifs quand ils faisaient les sacrifices. Mais aujourd'hui, nous faisons d'autres sacrifices sans animaux. Sacrifier, sacrifice de la louange, sacrifice de l'adoration. Comment on le fait? On le fait par habitude ou on le fait vraiment avec notre cœur? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Là, ça devient... Là, Samuel, Dieu parle par la bouche de Samuel. On s'aperçoit que ce n'est pas des paroles à diluer. Non. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous trouvez ce passage, si vous voulez le rechercher, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. C'est vrai que notre salut ne doit pas être considéré comme un acquis. Ça, c'est le danger qui nous guette. en disant, voilà, j'ai fait mon expérience avec Dieu, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, et c'est acquis. Je n'ai plus rien faire, je suis tranquille. Non. On a besoin de remettre à l'œuvre notre salut chaque jour. Je dis bien chaque jour. Pourquoi ? Parce que ce salut, il faut qu'il soit enraciné. Prenez, alors là, j'ai affaire à des gens qui connaissent, planter un arbre. Hein ? Planter un arbre. S'il n'a pas de racines, l'arbre il n'ira pas bien loin. Hein ? Il va mourir un peu de temps. Et c'est pareil pour nous. Nous avons besoin de nous enraciner dans cette parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça va devenir un trésor inestimable et qui va prendre toute sa dimension lorsque nous serons ensemble, et ça c'est ce que je souhaite, dans sa présence. Être ensemble, tous, dans sa présence. Mais cela ne peut pas se faire avec des efforts humains. Non. Non. Si vous l'essayez par des efforts humains, vous serez vite arrêté, vous serez vite fatigué, vous serez vite désolé, vous serez de suite humilié. Non, c'est que par la grâce. On l'a chanté à travers ces quelques petits chœurs qui sont merveilleux. La grâce de Dieu qui est là pour chacune de nos vies. J'ai bien aimé le premier, je crois que c'était le premier chant qui disait « Jésus est là ». Est-ce que vous croyez que Jésus est là ? Quand même, bien sûr, mais il est où ? Ah, voilà, Greg me dit, il est dans mon cœur. Il est même assis peut-être à côté de toi. Il est là. Si on arrivait à voir le monde invisible, si le monde invisible venait dans le monde visible que nous sommes, on serait sûrement étonné de voir que les chaises qui sont vides, elles paraissent vides pour nous. Humainement, elles sont vides. Elles sont peut-être pleines. Il y a peut-être quelqu'un, on ne sait pas. Mais Dieu se tient là où on annonce sa parole, là où on le glorifie, là où on se prosterne devant lui. Dieu agit. C'est l'apôtre Pierre qui, dans une même pensée, dira, c'est pourquoi frères, et moi je rajoute les sœurs, parce que c'est important, mais... C'est vrai que des fois, on pourrait dire, mais ils sont sexistes, ils sont c'est macho, ces disciples-là, ces apôtres. Non, non, mais dans le terme frère, ça englobe les sœurs. Mais je précise quand même. Hein. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si vous voulez les références, je vous les donnerai après. Le verset 14 qu'on a lu, alors peut-être qu'il faudrait le relire. Hein. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Je crois que ce verset 14 ne peut pas être pris à la légère dans l'Église. On sent que Paul, avec amour, mais aussi avec fermeté, et je crois qu'on a besoin de la fermeté. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu est juste, et sa justice, elle sera toujours appliquée selon sa parole. Il donne un avertissement à cette église de Philadelphie. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Nous savons, nous qui avons la parole de Dieu maintenant, combien cela a coûté à ce peuple juif à la sortie d'Égypte. Il a fallu qu'il y ait 10 plaies pour qu'ils arrivent vraiment à sortir de ce pays d'Égypte. Et est-ce que vous savez qu'il y a eu autant de murmures contre Dieu qu'il y a eu autant de plaies? Est-ce que vous savez ça? Le murmure de l'homme, le murmure qui murmure contre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette génération-là ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert. Avertissement. Pour moi, comme pour vous. Pourquoi alors les murmures? Bien, écoutez, les murmures mènent très rapidement aux rumeurs et qui sont un véritable poison au milieu du peuple de Dieu. Verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, pour laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. » Le Seigneur Jésus et les apôtres par la suite ont insisté d'une manière personnelle sur cela. Insister sur le fait que nous vivons dans un monde incrédule et pervers, et les gens du monde, donc ceux qui nous entourent, adoptent des points de vue erronés et ils adhèrent à des valeurs perverties. Et ils suivent des modes de vie immoraux et rejettent la parole de Dieu. C'est pour ça que dans l'Église, on ne peut pas être comme ceux du monde. Je regrette de le dire comme ça, mais il y a des fois, je me pose des questions. Personnellement, quand je vois des situations de personnes dans l'Église qui ressemblent à ceux du monde, je me dis, il y a un problème. Bon, là, c'est personnel que je le dis. Si quelqu'un n'est pas content dans ce que je viens de dire, il viendra me trouver après à la sortie. Hein ? Parce que le lynchage ne se fait jamais à l'intérieur, il se fait toujours à l'extérieur. Voilà. La première partie de ce verset nous ramène à l'enseignement du Seigneur Jésus sur les béatitudes. Vous savez, les béatitudes, c'est quelque chose qui est surprenant aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas surprenant avec le Seigneur ? Tout est surprenant. Sa parole est surprenante. Sa vie est surprenante. Sa résurrection est surprenante. Et son retour, il n'est pas surprenant quand il viendra nous chercher. Est-ce que vous êtes attentif à son retour? Est-ce que vous attendez à son retour? C'est une question. Est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on répond à cette question? Est-ce que je dis oui Seigneur, viens? Ou je dis Seigneur, attends encore, tu sais, encore, j'ai besoin encore de comprendre. Et dans les béatitudes, il y a cette parole. Et on ne va pas voir toutes les paroles d'habitude, mais un seul, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Juste une parenthèse, personnellement, je suis reconnaissant de l'enseignement que nous voyons sur ce thème. Car il m'a permis justement d'avoir une autre façon de voir sur des passages comme ceux. Celui qu'on voit en ce moment. Pour revenir à ce début du verset, ce qui est surprenant, je ne sais pas si vous avez fait attention, ce sont les deux termes utilisés, irréprochable et pur. C'est étonnant, non? Vous ne trouvez pas? Irréprochable et pur. Comme si le fait d'être irréprochable, ça n'implique pas qu'on soit pur. Ou si on est pur, on est irréprochable. Ça semble comme ça. Première vue, Paul insiste, irréprochable et pur. C'est vrai que la parole de Dieu, à travers toute son histoire de la vie des hommes, on voit qu'il y a des affirmations, il y a aussi des confirmations. Être irréprochable, voilà, on va peut-être voir un peu ce que c'est quand Paul et quand Dieu dit, il faut que vous soyez irréprochable. C'est un constat. Mais un constat qui est externe, il est extérieur. Il est extérieur pour qu'il soit mis en évidence face à ceux qui nous observent. Vous savez que c'est important d'être irréprochable face à ceux qui sont dans le monde. Alors que la pureté nous parle de l'intérieur. La pureté nous parle de l'intérieur. Nous avons besoin d'être pur. Je ne sais pas si on ne l'a pas chanté ce matin aussi. Je ne sais pas. Être pur. Et on comprend mieux pourquoi le croyant doit non seulement être irréprochable par rapport au monde extérieur, mais il doit être pur dans l'Église. Parce que Dieu nous, nous, Et si on lit les Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, tous les passages, on voit que Paul insiste sur la pureté, la sanctification. Sanctification, le terme sanctification, ça veut dire être mis à part. Et être mis à part, c'est être justement être dans la pureté. La fin du verset a attiré mon attention aussi. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on s'aperçoit que tout le long de ces versets, il y a presque un message. Mais la fin du verset, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Il faut savoir que pour les générations qui nous ont précédés, le flambeau avait une valeur à plusieurs titres. Car non seulement le flambeau permettait d'avoir un éclairage, mais il servait aussi pour guider, pour rassurer, et même parfois pour parfumer un lieu. Alors, nous allons essayer de voir, je vous propose de voir le flambeau sur un plan spirituel. Quelle est son incidence? Je pense qu'il a une incidence profonde et révélatrice. Par exemple, dans le flambeau, on retrouve les caractéristiques de Dieu. Vous savez que les caractéristiques de Dieu sont de quatre éléments. Le premier, Dieu est lumière. Le deuxième, Dieu est un feu dévorant. Le troisième, Dieu est esprit. Et le quatrième, Dieu est amour. Voilà les quatre éléments qui font que Dieu, lorsqu'il se révèle, c'est sa manifestation. Dieu est lumière. Et là, je vous renvoie un peu dans le prologue de l'évangile de Jean. Ce prologue de l'évangile de Jean est déjà... Qu'avec ce prologue, s'il n'y avait plus rien derrière, ça suffirait pour se convertir. Mais voilà ce qui est dit quand même, juste un ou deux versets. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Est-ce qu'on prend conscience de ce que cela représente? Devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que nous avons affaire à un Père qui nous aime, un Père qui a tout fait pour que nous devenions enfants. Et ça a coûté. Ça a coûté. Là, il ne croit. Mais ça a coûté la vie de Jésus. Jésus qui s'est donné. Il n'a pas fait de calcul. Il s'est donné entièrement. Et vous savez, quand on parle de la crucifixion, si on regardait un peu plus tôt qui est Jésus, il est dit qu'il a tout abandonné, toute sa richesse, tout ce qu'il était pour devenir comme un homme. Il est devenu comme un enfant, une naissance comme un enfant. Vous vous rendez compte, Dieu qui vient à nous dans un bébé. Quelle folie, moi je dis. J'ose dire, quelle folie. Et tout ça par amour pour chacune de nos vies. Alors je crois qu'il peut attendre notre part que nous puissions le servir d'une manière irréprochable et purifiée. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Vous avez deux passages, un dans le Deutéronome et un Hébreu, il y en a peut-être d'autres. Hein, moi, j'ai trouvé cela. C'est un feu dévorant. Alors, pourquoi il y a un feu dévorant? Pour une simple raison, c'est que c'est un Dieu jaloux. On pourrait dire, mais attends, la jalousie, c'est pas bon, ça. Il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il nous aime à un tel point qu'il ne peut pas comprendre que l'être humain, quel qu'il soit, puisse se refuser cet amour. C'est ça qui est important aussi. Dieu est esprit. Et j'aime beaucoup le passage qu'on retrouve dans Jean 4, la Samaritaine. Voilà une femme qui avait une vie. Hein, elle avait eu cinq maris. Il faut déjà le faire. Bon, on le voit actuellement encore, qu'il y en a qui en ont encore plus même. Et le sixième qui était avec elle n'était pas son mari. Et Jésus va lui révéler tout cela. Et Jésus va lui dire, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et puis on va passer au quatrième, Dieu est amour. Alors là, je ne sais même pas s'il y a besoin que je dise quelque chose, parce que je crois que depuis le début, je ne vous arrête pas de vous dire que Dieu nous aime. Mais, si vous voulez, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors ça, c'est un avertissement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, une peut-être des premières fonctions, parce que je ne sais pas si ça marche bien ça, hein. Une des premières fonctions du flambeau, c'est de montrer, de révéler la vérité. Et on a besoin de marcher dans la vérité. On ne peut pas, on n'est pas au ski, hein. On ne peut pas slalomer, on ne peut pas. La vérité, c'est quelque chose qui est droit. La vérité, elle ne va pas aller en disant, oh, c'est peut-être là. Non, la vérité va droit, elle a un but. Et pour qu'elle soit vue, cette vérité, il faut la refléter. C'est ça le flambeau. Si vous êtes un flambeau, si nous sommes un flambeau, nous devons refléter la vérité. Et la vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux. Et la vérité, vous l'avez dans la parole. C'est elle qui doit déterminer ce que vous êtes. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas refléter la vérité. Là, vous allez dire, Georges, tu exagères encore. Hein. Bon, ben, écoutez, vous continuerez tout à l'heure. Mais la vérité, il faut la refléter. Il faut la vivre pleinement. Il faut qu'elle soit une manifestation de ce que vous êtes. C'est Paul qui dira aux Corinthiens, vous êtes une lettre écrite par son propre sang. Ah. Eh oui, elle doit se voir, elle doit se lire. C'est le Seigneur Jésus qui, en parlant de la vérité, va dire « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Une autre fonction du flambeau, c'est de guider. C'est le psaume 119, et ça c'est un verset qui est très connu, même les enfants le connaissent. C'est le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Rendez compte. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean disait, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous sommes tous éclairés. Personne ne peut dire qu'il n'a pas l'éclairage venant de Dieu. Tous ceux qui entendent parler un jour ou l'autre de Dieu, il y a un éclairage qui se fait. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cet éclairage? Qu'est-ce que je vais faire de cette parole que je viens d'entendre? Alors j'ai le choix. Soit elle me touche et elle m'amène à comprendre que Dieu, ce qu'il veut, c'est m'attirer dans ses bras. Soit je suis trop orgueilleux, j'ai ma vie, je me suis fait à la force de mon poignet, j'ai réussi ma vie, je suis marié, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai ma voiture de luxe ou de sport, je ne sais pas quoi, j'ai tout. Et il te manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. On peut dire, d'après ce qu'on a lu, c'est que si le temps de l'apôtre Paul, le monde était pervers et corrompu, je crois... Je peux dire, sans me tromper, que nous vivons dans un monde où on n'a rien à envier à celui de l'apôtre Paul. Le monde actuel, aujourd'hui, est corrompu. Alors, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais on s'aperçoit que de jour en jour, en plus avec l'information qui circule à une vitesse phénoménale, on voit que le monde est corrompu. Donc, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence. L'urgence d'éclairer, de guider, afin d'essayer d'en sauver un plus grand nombre. Il me semble que l'évangélisation, c'est quelque chose qui devrait être normal. Si on ne fait pas d'évangélisation, je vais me faire plus que lyncher. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, autant être lynché, autant une fois pour toutes, et puis on n'en parle plus. Si l'évangélisation ne se pratique pas dans l'Église d'une manière normale, nous passons à côté du but que le Seigneur nous demande. Lisez Marc 16, qu'est-ce que dit Jésus? Allez, prêchez la bonne nouvelle. C'était en Israël et il termine jusque dans le monde. Et le monde, c'est où? C'est le pays de Gex. Vous ne croyez pas que le pays de Gex a besoin d'entendre la parole de Dieu? Vous ne croyez pas que chaque ville, Saint-Genis-Pouilly, Prévesin, Gex, Ferney-Voltaire, je vais l'oublier, hein, Thoiry, et tant d'autres, ont besoin d'entendre que le message de Dieu résonne d'une manière à ce que des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, puissent être interpellés et puissent faire un choix. Mais si on ne leur dit pas, comment ils pourront faire un choix? Si on ne leur dit pas, mais attendez, là, vous partez à catastrophe, votre vie, elle va se terminer comment? Il y a un verset de Jude que j'ai relevé, où il est dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Vous rendez compte? En les arrachant du feu. De quel feu? Si on se pose la question, de quel feu? Le feu là, on allume un feu là? Non, ce n'est pas ce feu là. C'est le feu de l'enfer. C'est celui-là. C'est pas marqué tout ça là. Hein. Mais je travaillais à Annecy en direction. J'avais une collègue d'origine espagnole, un peu comme ma femme d'ailleurs, hein, elle est espagnole, vous n'allez pas me dire tu es raciste. Gentille, vraiment une fille très gentille. Mais elle me disait, écoute, Georges, parce que je lui parlais de Dieu, bien sûr, elle me disait, moi, quand je vais mourir, je me fais incinérer, et après, ça me disait encore, et je vais en enfer. Moi, j'ai dit, écoute, son prénom, c'était Harmonie. Là, il y a un joli prénom. C'est chantant, ça, hein, Harmonie. Je vous assure, vraiment, une gentille fille, vraiment. Âgée, déjà, mais gentille. Je disais, écoute, Harmonie. Il y a une chose que tu peux éviter. Tu n'as pas besoin de te faire incinérer, il y a assez de feu avec le diable. Elle m'a regardé avec des yeux grands comme ça. Et je me rappelle, à l'époque, elle vivait en concubinage avec un homme qui était catholique. Et elle lui a raconté, elle lui a dit, tu te rends compte, Georges, ce qu'il me dit. Il me dit, je n'ai pas besoin de te faire incinérer, il y a assez de feu à l'enfer. Et lui, il a dit, mais il a raison. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette personne. Mais témoigner. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a pu en faire de ça. Hein. Est-ce que ça l'a fait réfléchir pour qu'elle se détourne un peu de sa manière de concevoir les choses? Vous voyez, il y a tant de gens comme ça qui sont autour de nous, qui ne sont pas sauvés, mais qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est pour ça que c'est important que nous puissions mettre en œuvre quelque chose où la parole de Dieu résonnera et amener des hommes, des femmes à se détourner de ce monde pour venir dans la pleine lumière à travers le flambeau que vous êtes. Le flambeau sert aussi à avertir. Parce que là, jusqu'à maintenant, ouais, j'ai dit quand même certaines choses. Je crois que je ne sais pas comment je vais terminer ma prédication, mais j'ai le sentiment que là, je suis sur des braises déjà. On parle de feu depuis un moment. Le flambeau sert aussi pour avertir. Et c'est encore Paul qui prévient les chrétiens. Vous savez, Paul, il n'est pas tendre, hein? Mais en même temps, on ne peut pas être tendre quand c'est une question de vie, de mort. Et là, on ne parle pas de vie terrestre, on parle de vie céleste. Il va dire, dans 2 Corinthiens, on n'en est pas encore là dans l'étude, hein, c'est dans 2 Corinthiens. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça aussi, Satan se déguise en ange de lumière. Ce qui veut dire il faut discerner, le discernement. On manque souvent de discernement. Discerner quand on entend quelqu'un parler. Moi je sais que je porte beaucoup d'attention quand on parle. Quand quelqu'un parle, j'écoute. Je suis très observateur. Alors, je ne sais pas si c'est venu de mon métier, ça. J'avais un métier, je ne le dirai pas. Il fallait que j'observe beaucoup ce que je voyais arriver. Mais je vois qu'il y en a qui parlent pour moi. Bon, ce n'est pas grave. Non. Mais s'ils veulent poser des questions, ils viennent me les poser. Oui, à l'extérieur toujours. Et si je suis encore en vie. Non, moi je crois qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut même veiller dans l'Église. Hein. Et moi je dis que soyons comme ces Juifs de Bérée. Vous savez ces Juifs de Bérée, quand Paul venait leur parler, ils ne disaient pas, bon Paul t'as bien parlé, ça nous a fait du bien. Non, ils ne disaient pas ça. Ils observaient par l'écrit ce que Paul leur avait dit. Ils contrôlaient. Eh bien, souvent, on ne contrôle pas, nous. C'est comme ça qu'il y a des dérives dans les églises. Vous savez, le côté émotionnel, danger. Danger. Vous êtes en danger de mort si vous voulez vivre une vie chrétienne qu'avec des émotions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des émotions. Mais si vous vivez qu'avec des émotions, vous êtes en danger. Je crois que je vais arrêter là. Je crois que j'en ai assez dit. Chacun a pris ce qu'il a voulu. Il y en a quelques-uns qui n'ont rien pris. C'est pas grave. Pas grave. Moi, ça m'a fait du bien. Parce que moi, j'ai pris tout ce que j'ai dit pour moi. Croyez-moi, j'ai passé une très mauvaise nuit. Ça, vous allez dire, c'est pas notre problème. Tout à fait. Parce que je me disais, Seigneur, comment je vais pouvoir exprimer la pensée que toi tu as. Comment je vais exprimer des choses qui sont fortes? Est-ce que je vais trouver les mots? Est-ce que je vais avoir l'expression? Non. J'arrête là. La Bible est fermée, mais la parole peut rester ouverte à chacun. Je vais terminer par la prière. Hein? Je crois que... Mais merci Seigneur parce que, à travers cette parole de Paul, Seigneur aux Philippiens, Seigneur, nous voyons qu'encore aujourd'hui, nous avons besoin d'être remplis de toi, Seigneur. Que ta vie se manifeste à travers nous, Seigneur. Que nous puissions être vraiment ces flambeaux, Seigneur, là où tu nous as placés. Et que nous puissions vraiment être les porteurs de la bonne nouvelle, Seigneur. Merci de bénir mes frères, mes sœurs qui sont là, Seigneur. Qu'ensemble nous puissions aller de l'avant, que nous puissions être les uns et les autres unis par ton esprit, Seigneur. Que nous puissions aussi marcher d'un même pas, Seigneur, parce que c'est là qui est important. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir cet éclairage de ta parole chaque jour, afin que nous ne perdions pas, Seigneur. Et que nous puissions vraiment nous réjouir de savoir que tu es celui qui nous éclaire, tu es celui qui nous conduit. et tu es celui qui nous fait grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.
Merci pour ce qui nous a été apporté ce matin. Voilà, je partage avec vous les annonces. Alors donc demain, oui c'est ça, le Femme Club à 14h45, c'est-à-dire à l'horaire 13h45, oui, l'horaire habituel. Donc ça avait été annoncé un décalage. Finalement, cela n'aura pas lieu. Cela se fera probablement plus tard. Donc, 13h45 pour le Femme Club, avec au programme 10 canalises. Je pense que les femmes concernées savent ce à quoi ça correspond. Mardi, donc, on a la réunion de prière mardi soir. Voilà, c'est important d'y participer pour rentrer dans ce que Georges nous a développé. Ça en fait partie aussi. Samedi, le groupe de jeunes, donc, qui aura lieu à 14h45. Dimanche prochain, cinquième dimanche, on l'a déjà annoncé, culte de témoignage, bien sûr, suivi d'un repas en commun. Donc les quelques familles de Coponnet qui nous ont invités pour, au niveau de la chorale pour chanter le 17 décembre à Coponnet, nous offrent le plat principal. Très sympa de leur part. Ce sera aussi un moment de partage et de communion entre nous et avec eux. Par contre, il faut s'inscrire. Donc au fond de la salle, il y a deux feuilles pour s'inscrire. Il faut s'inscrire déjà pour la participation au repas, pour qu'ils puissent prévoir les quantités à apporter. Et puis ensuite, s'inscrire aussi pour préparer des entrées, des salades et des desserts. Alors évidemment, c'est le dernier jour pour s'inscrire, parce que dimanche prochain, ce sera trop tard. La semaine d'après, mardi 31 janvier, donc on a prévu une réunion d'église concernant la suite du sujet du pasteur. Donc on a déjà envoyé l'ordre du jour par email, mais pour ceux qui l'auraient pas reçu, donc il y aura trois points mardi 31. Dans la suite de la réflexion, donc on va répondre à la question: existe-t-il d'autres formes d'organisation de notre Église, autre celle que faire appel à un pasteur pour répondre aux besoins qui ont été identifiés? Ça, ce sera le premier point. Deuxième point, bien, le conseil va donner sa position. Donc voilà, si vous voulez la connaître, ben, venez le 31. Et puis le troisième point qui sera le plus important, on aura un temps de prière en commun et de recherche de la volonté de Dieu par rapport à ce sujet. Et ça, c'est vraiment important, donc il n'y aura pas de décision prise ce jour-là, mais on vous invite à une large participation parce que c'est un sujet qui nous implique tous, un sujet important pour la vie de l'Église et un sujet aussi dans lequel on doit tous avancer ensemble. Et pour avancer ensemble, on doit partager et vivre ces temps et ces moments ensemble. Voilà, sinon les dates suivantes, voilà, vont vous être données. Vous avez vu le 19 mars, culte de baptême. Important de le noter dans les agendas. Sinon, on partage avec vous, avec tristesse, le décès du papa de Déborah, donc, qui est décédé, donc Alfred Marty, qui est décédé jeudi passé, dans sa 80e année. La cérémonie d'adieu aura lieu mercredi à 15h dans l'église protestante évangélique de Saint-Georges-sur-Bolche, c'est près d'Auxerre. Voilà, que Dieu accompagne la famille Richard, Pierre, Déborah, les enfants, et la famille est plus élargie aussi, pendant ce temps de séparation, qu'il vous fortifie, qu'il vous console, qu'il vous renouvelle. Voilà, continuons de penser aussi aux personnes qui souffrent dans l'Église, à Roland, Joël, Rachel, on continue de penser à vous, Brian et Hélène, que Dieu vous bénisse et vous accompagne aussi. Pensons aussi à Anne-Lise, à Jacques et Guylaine aussi. Jacques devait se faire opérer, moi je n'ai pas eu de nouvelles, mais on peut vraiment penser à eux. Pensons aussi à Ruth Sbinden, qui est maintenant à la maison de retraite d'Ornay, à côté de Ferney. Et puis, une autre nouvelle, une grande nouvelle que m'a passée Jean-Paul, sujet de prière et de reconnaissance aussi. Le week-end prochain, David Ratovo se remarie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de David Ratovo, que l'Église soutient depuis très longtemps. Il est passé le printemps passé dans l'Église, il était venu nous apporter un message. David Ratovo se remarie avec Mirana, une dame qui est missionnaire comme lui. Alors, il y a une carte qui est au fond de la salle, qui est à signer pour lui envoyer. Voilà, que on puisse aussi être de tout cœur avec lui, avec eux. Voilà, que Dieu bénisse ce nouveau couple, tout particulièrement aussi dans leur engagement missionnaire. Je vais laisser la place une minute à Clément, qui va nous donner juste deux, trois petites nouvelles.
Donc bonjour à tous. Donc là c'est pour ces 18 derniers mois, donc j'ai passé à rechercher un travail. Donc tout d'abord je voudrais vous remercier pour m'avoir soutenu donc psychologiquement et spirituellement dans ma recherche de travail. Cette semaine donc Dieu m'a donné un emploi donc chez CEITA, donc c'est au Locle. Donc là pour l'instant je fais de l'assemblage de mouvements. Il faut aller très très vite parce qu'il faut assembler 400 mouvements par jour. Par rapport à ma présence, donc je compte revenir donc ici pour rester au moins pour le groupe de jeunes et pour le culte, mais par contre je pourrais pas venir pour les activités de la semaine. Église, voilà.
Voilà, Clément nous donnera plus de précisions dimanche prochain puisque c'est un culte de partage. Je vous rappelle aussi les calendriers qui restent à disposition. N'hésitez pas de vous servir, vous pouvez les prendre. C'est comme l'année a commencé, on vous les offre, mais c'est important qu'ils soient utilisés. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore quelques versets qui sont tout à la fin de la Bible. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.